Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audible Studio présente La roue du temps, tome 2, La grande quête, de Robert Jordan, traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Arnaud Leridan. Et un jour, tout ce que l'humanité a créé sera brisé. Les ténèbres s'abattront sur la trame des âges, et le berger de la nuit tiendra de nouveau entre ses mains le monde des vivants. Les femmes pleureront, et les hommes trembleront, tandis que les nations seront réduites en lambeaux tels des morceaux de tissu pourris. Car rien ne résistera, ni ne subsistera, face à la tourmente. Pourtant, un être naîtra afin d'affronter les ténèbres. Un être naîtra de nouveau, plutôt, comme il naquit jadis et renaîtra demain jusqu'à la fin des temps. Oui, le dragon se réincarnera, des lamentations et des grincements de dents accueillant son retour à la vie. Il vêtira de crêpes et de cendres les peuples et disloquera de nouveau le monde, son seul avènement suffisant à briser tous les nœuds qui tiennent ensemble les choses. Comme une aube triomphante, il nous éblouira et nous consumera. Pourtant, lors de l'ultime bataille, c'est lui qui affrontera les ténèbres, et son sang nous restituera la lumière. Pleurez à chaudes larmes, peuple du monde. Oui, pleurez pour votre salut. Extrait du cycle de Carayton, Les prophéties du dragon. Traduction d'Elaine Meseydine Alchin, bibliothécaire en chef à la cour d'Arafel. An de grâce 231 de la Nouvelle Ère, Troisième Âge. Prologue. Dans les ténèbres. L'homme qui se nommait lui-même Bors, du moins en ce lieu, eut un rictus méprisant lorsque des murmures étouffés coururent dans toute la salle surmontée d'un dôme, rappelant les piaillements continus d'un troupeau d'oies. Sa grimace demeura invisible sous le masque de soie noire qui dissimulait son visage. Autour de lui, également caché sous un masque, 100 paires d'yeux tentaient de distinguer ce qui se tapissait dans les ombres. Si on n'y regardait pas de trop près, la grande salle, avec ses cheminées de marbre, ses lampes dorées pendant du plafond, ses tapisseries raffinées et son sol en mosaïque, aurait pu être le hall d'apparat d'un palais. Mais un examen plus attentif démentait cette impression. Pour commencer, alors que de grosses flammes léchaient les bûches, les cheminées ne produisaient pas de chaleur. Derrière les tapisseries et très haut au-dessus des têtes, les cloisons et la voûte étaient en pierre brute presque noire. Les fenêtres brillaient par leur absence, et seules deux entrées, à chaque extrémité de la salle, se découpaient dans la pénombre. On eût dit que le concepteur des lieux avait voulu leur donner l'apparence d'une salle de réception royale, mais en se contentant d'en restituer les grandes lignes, sans aucun souci du détail. L'homme, qui se nommait lui-même Bors, ignorait où était située la pièce. Selon lui, ses compagnons ne le savaient pas davantage. De toute façon, il préférait ne pas y penser. Y avoir été appelé était déjà bien assez grave. À dire vrai, il n'aimait pas non plus penser à cet aspect des choses. Aux convocations de ce type, même un homme comme lui était obligé de répondre, et cela en disait assez long en soi. Il ajusta le pli de sa longue cape et se félicita que les feux ne produisent pas de chaleur. Sinon, il aurait étouffé sous le vêtement, noir comme tous ses autres habits, et parfait lorsqu'il s'agissait de dissimuler sa véritable taille, car il voûtait en permanence les épaules et sa réelle corpulence. Autour de lui, bien d'autres invités s'enveloppaient ainsi dans des plis et des replis de tissu. En silence, Bors observa ses compagnons. La patience était un des thèmes dominants de sa vie. Immanquablement, s'il attendait assez longtemps, observateur impassible, quelqu'un finissait par commettre une erreur. La majorité des femmes et des hommes qui l'entouraient devaient partager cette philosophie. Le regard sans cesse en alerte, il tendait l'oreille et ne perdait pas une miette du jacassement des bavards invétérés. Certaines personnes ne supportaient pas d'attendre et encore moins de se taire. En palabrant, elles livraient une incroyable quantité d'informations précieuses à ceux qui savaient écouter. Des jeunes gens blonds comme les blés et minces comme une liane circulaient entre les invités, leur servant du vin avec un sourire figé et une révérence sans âme. Garçons comme filles, ces serviteurs tout de blanc vêtus portaient un pantalon moulant et une chemise très ample. Quel que fût leur sexe, ils se déplaçaient avec une grâce troublante. En fait, il se ressemblait comme un reflet dans un miroir ressemble à son modèle, mâle et femelle ayant en commun une saisissante beauté. Même au prix d'un gros effort, Bors aurait été incapable de distinguer ses serviteurs les uns des autres. Pourtant, il avait un don proverbial pour mémoriser les visages. Une jeune fille proposa à Bors un plateau lesté de coupes de cristal. Il en prit une sans avoir l'intention de boire, ni même de tremper les lèvres dans le vin. Refuser le nectar aurait pu passer pour de la méfiance. Ne pas boire risquait aussi d'être dangereux, mais considérant tout ce qu'on avait loisir de verser dans une coupe, en plus du vin, les connaissant hélas fort bien, Bors ne doutait pas un instant que certains de ses compagnons n'auraient eu aucune répugnance à éclaircir ainsi les rangs de leurs rivaux, et sans se soucier des victimes qu'ils feraient au hasard, bien entendu. Distraitement, Bors se demanda si les serviteurs seraient exécutés après la réunion. Les domestiques entendent tout. Alors que la jeune fille se relevait après l'avoir saluée bien bas, Bors croisa son regard. Des yeux vides, morts comme ceux d'une poupée, et plus froids que le regard de la faucheuse elle-même. Bors frissonna alors que la jeune servante s'éloignait avec cette grâce qui ne se démentait jamais. Perturbé, il porta la coupe à ses lèvres, mais se reprit à temps. Son trouble n'avait en réalité rien à voir avec ce qu'on avait pu infliger à la jeune fille. Mais chaque fois qu'il croyait détecter une faiblesse chez les maîtres qu'il servait à présent, il en était pour ses frais, la prétendue faiblesse étant éradiquée avec une précision impitoyable qui ne manquait jamais de le stupéfier. Depuis toujours, sa première règle consistait à traquer les lacunes des autres, parce que trouver le défaut de leur cuirasse restait le meilleur moyen de les dominer puis de les manipuler à sa guise. Si ses maîtres actuels, ou plutôt provisoires, étaient sans faille, ça n'augurait rien de bon. Sourcils froncés sous son masque, Bors recommença à étudier ses compagnons. Au moins, à ce jeu-là, la cueillette était bonne. Même ceux qui se révélaient assez malins pour tenir leur langue étaient trahis par leur nervosité. Il suffisait d'un rien pour en être sûr. Une posture un peu trop raide chez l'un, un tic chez l'autre, une façon un peu maladroite de relever l'ourlet de sa jupe chez une troisième. Un bon quart des invités, estima Bors, s'était contenté du masque en matière de déguisement. Leurs vêtements en disaient bien plus long qu'ils croyaient. Campée devant une tenture or et pourpre, une femme parlait à une silhouette, impossible de dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, vêtue d'une cape à capuche grise. À l'évidence, la femme avait choisi cet endroit parce que les couleurs de la tenture s'harmonisaient avec celles de sa tenue. Attirer ainsi l'attention sur elle était doublement révélateur. Dans sa robe pourpre décolletée bien trop généreux, l'ourlet étant assez haut pour laisser voir de délicats escarpins dorés, l'imbécile proclamait qu'elle venait de Liliane et qu'elle appartenait à la haute société, voire à la noblesse tout simplement. Pas très loin de Lilianienne, une autre femme, solitaire celle-ci, se murait dans un admirable silence. Sa superbe crinière brune cascadant sur son long cou de cygne, puis sur ses épaules jusqu'à atteindre sa taille, elle se tenait dos au mur et ne ratait rien de ce qui se passait autour d'elle. Pas de nervosité ici, mais bien au contraire, une maîtrise de soi de tous les instants. Encore une caractéristique admirable, pas vrai? Sauf que la peau cuivrée de la jeune dame, alliée à sa robe crème à ras du cou, un vêtement qui ne dévoilait que ses mains, mais assez serré pour tout suggérer de ses formes sans rien en révéler, comme s'il était transparent sans l'être vraiment, claironnait son appartenance au tout premier sang d'Arad Doman. Et sauf si l'homme qui se nommait lui-même Bors se trompait du tout au tout, le large bracelet d'or qu'elle arborait au poignet gauche devait être gravé du véritable emblème de sa maison. Bouffi d'orgueil, aucun Domani, homme ou femme, n'aurait eu l'humilité de porter l'emblème d'une autre maison afin de préserver son identité. Quelle incroyable stupidité! Sanglé dans un manteau bleu ciel à haut col du chiennard, un homme passa à côté de Bors et l'étudia de la tête aux pieds à travers les fentes de son masque. La posture de ce type proclamait qu'il s'agissait d'un soldat. La façon de tenir ses épaules, son regard qui ne restait jamais longtemps fixé au même endroit, sa main droite prête à se refermer sur la poignée d'une épée qu'il ne portait pas pour l'instant. Tout le trahissait, il suffisait de le regarder pour s'en apercevoir. Comme de juste, il n'accorda qu'une attention distraite à l'homme qui se nommait lui-même Bors. Pour un idiot de ce genre, des épaules et un dos voûté n'étaient pas menaçants. Bors ricana tandis que le militaire s'éloignait, sa main refermée sur une arme imaginaire et ses yeux déjà en quête d'une autre source éventuelle de danger. Qu'il était facile de percer à jour ces gens, de quelque pays qu'ils viennent et à quelque caste qu'ils appartiennent. Marchands, guerriers, roturiers, obereaux, originaires du Candor, du Kairien, du Saldaea et du Gealdan. Tous les royaumes du monde et presque toutes ses ethnies. Bors plissa soudain le nez de dégoût. Il y avait même un Zingaro repérable à 10 lieues de distance, avec son pantalon vert et son manteau jaune vif. Lorsque viendra le jour, nous nous passerons volontiers de ces gens-là. Les invités déguisés, pour la plupart, n'étaient guère plus mystérieux que les autres. Sous une longue tunique noire censée ne rien révéler, Bors aperçut le bout revêtu d'argent des bottes d'un haut seigneur de Théar. Sous un autre ourlet, il identifia des éperons d'argent à tête de lion, un équipement exclusivement réservé aux officiers supérieurs des gardes de la reine du royaume d'Andorre. Ne parvenant pas à dissimuler sa minceur sous une longue tunique noire et une cape grise parfaitement passe-partout tenue par une broche d'argent des plus banales, un homme épiait l'assistance depuis les ombres insondables de sa capuche. Un camouflage très réussi, n'était l'étoile à 6 branches tatouée à la base du pouce de sa main droite. Un membre du peuple de la mer, donc. Un coup d'œil sur sa main gauche aurait suffi pour identifier l'emblème de son clan et de sa lignée. Blasé, l'homme qui se nommait lui-même Bors ne consentit même pas à cet effort. Il fronça soudain les sourcils, le regard rivé sur une femme enveloppée de noir au point qu'on ne distinguait rien d'autre que ses doigts. À la main droite, elle portait un anneau représentant un serpent qui se mord la queue. Une Aes Sedai. Ou au minimum, une femme formée à Tarvalon par des Aes Sedai. Personne d'autre au monde n'aurait osé arborer une telle bague. Alors, une authentique Aes Sedai ou une renégate? La réponse laissant Bors de marbre, il détourna le regard de la femme en noir et en repéra presque aussitôt une autre, vêtue à l'identique et exhibant le même genre d'anneau. Les deux sorcières ne semblaient pas se connaître, du moins à première vue. Dans la tour blanche, à Tarvalon, leurs sœurs, assises en cercle au milieu de leur toile comme des araignées, tiraient les ficelles reliées aux membres des rois et des reines qu'elles faisaient danser à leur guise. « Qu'elles soient jamais condamnées à croupir dans la mort !» Bors s'avisa qu'il grinçait des dents. Si les rangs devaient s'éclaircir, et il le fallait avant l'avènement du grand jour, les Aes Sedai seraient encore moins regrettés que les Zingari. La note unique d'un carillon retentit soudain dans la salle, venant de partout à la fois et dominant sans aucune peine le brouhaha des conversations. Les lourdes portes, au fond de la pièce, s'ouvrirent pour laisser passer 2 trollocs vêtus d'une longue cotte de mailles hérissée de pointes. D'instinct, tous les invités reculèrent, et l'homme qui se nommait lui-même Bors ne fit pas exception à la règle. Plus grand de 2 bonnes têtes que n'importe quel invité présent, les trollocs, un répugnant mélange d'humanité et de bestialité, arborait une gueule-visage atrocement distordue. À la place du nez et de la bouche, le premier était affublé d'un énorme bec, et des plumes remplaçaient les cheveux sur sa tête. Le second monstre avait des sabots en guise de pied, et des cornes de chèvre dominaient le museau poilu qui lui tenait lieu de visage. Ignorant les invités, les monstres se tournèrent vers la porte et s'inclinèrent avec une répugnante servilité, les plumes de l'hybride aviaire formant une sorte de crête. Quand un myrdral entra, les 2 créatures se jetèrent à genoux. Les vêtements du blafard, plus noirs que la nuit, donnaient par contraste l'impression que les masques des humains et les cottes de mailles des monstres brillaient de 1000 feux. Et tandis que le demi-humain avançait avec une grâce de reptile, pas un pli de sa tenue ne bougeait, comme toujours. L'homme qui se nommait lui-même Bors sentit ses lèvres dessiner un rictus à moitié méprisant, et à demi terrorisé, il devait bien l'admettre, même si ça l'emplissait de honte. Le visage découvert, le myrdral affichait sa proche parenté avec l'humanité, n'était une incroyable pâleur et l'absence d'yeux au-dessus de son nez qui le faisait ressembler à un ver rampant dans une tombe. Le blafard tourna lentement la tête, comme s'il sondait l'assistance. Et c'était exactement ça, car il était malgré tout doté d'une vue d'aigle. Sous ce regard aveugle, les hommes et les femmes ne purent s'empêcher de frémir. Ravi de l'effet qu'il faisait aux invités, le myrdral eut un petit sourire, en tout cas une sorte de rictus qui étira ses lèvres anormalement fines et exsangues. Obéissant aux yeux invisibles du blafard, les humains formèrent un demi-cercle face à la porte. Bors ne résista pas davantage que ses compagnons. « Un jour prochain, demi-humain, le grand seigneur des ténèbres reviendra. Alors il choisira ses seigneurs de la terreur, et tu devras te prosterner devant eux. Oui, il te faudra t'humilier devant des hommes, devant moi. Bon sang, pourquoi ne parles-tu pas? Cesse de me fixer et parle enfin !» Votre maître est là! Annonça le myrdral, sa voix évoquant le crissement d'une peau de serpent rampant dans la poussière. À terre, vermine humaine! Rampée, immonde limace!
si vous ne voulez pas que son sombre rayonnement vous aveugle et vous consume. »
Révolté par le ton et les propos du monstre, Bors sentit une rage dévorante déferler en lui. Mais l'air ondula au-dessus de la tête du blafard, et il devint évident qu'il ne parlait pas pour ne rien dire.
« C'est impossible, impossible !»
Déjà étendu à plat ventre, les trollogues gigotaient sur le sol, comme s'ils essayaient de s'y enfouir. Sans tenter de voir ce que faisaient les autres, Bors se jeta face contre terre, grognant lorsque son visage heurta durement la pierre. Des mots jaillirent de ses lèvres comme une incantation destinée à repousser le danger. C'était bien ça en réalité, mais face à ce qui menaçait, le charme risquait de plier comme un roseau dans la tempête. Et il entendit cent autres voix, tremblantes de peur, réciter les mêmes mots que lui.
« Le grand seigneur des ténèbres est mon maître, et je mets à son servir jusqu'à l'ultime fil de mon âme. »
Dans un recoin obscur de son esprit, une petite voix terrorisée rappela à Bors d'antiques vérités.
« Le ténébreux et tous les rejetés sont emprisonnés. »
Frissonnant, l'homme qui se nommait lui-même Bors tenta de réduire la voix au silence. Il s'était écarté de ce chemin-là depuis si longtemps.
« Mon maître est le seigneur de la mort. Sans rien demander en retour, je le sers en attendant le jour de son avènement, certain d'être à ce moment-là récompensé par la vie éternelle. Emprisonné dans le mont Shayalghul par le Créateur, à l'instant même de la création. Non, j'ai changé d'allégeance désormais.
Car le fidèle doit être loué dans tout le pays et placé au-dessus du mécréant. Supérieur aux têtes couronnées, je servirai pourtant humblement jusqu'au retour de mon maître.
La main du Créateur nous abrite tous, et sa lumière nous protège des ténèbres.
Non, non, j'ai changé d'allégeance.
Que son retour vienne vite, et que le berger de la nuit nous guide, régnant sur le monde pour les siècles des siècles.
Bors acheva sa prière le souffle court, comme s'il venait de courir sur une bonne lieue. Les halètements qui retentissaient autour de lui indiquèrent qu'il n'était pas le seul dans cet état.
Levez-vous tous, levez-vous.
La voix étrangement suave fit sursauter l'homme qui se nommait lui-même Bors. Aucun de ses compagnons n'avait pu parler, car ils étaient toujours prosternés, leurs visages masqués plaqués contre la pierre. Pourtant, ce n'était pas le timbre qu'il aurait attendu. Très lentement, Bors leva la tête pour y voir au moins d'un œil. La silhouette d'un homme en longue tunique rouge sang flottait au-dessus du myrdraal, l'ourlet du vêtement à environ un pied de la tête du demi-humain. Comme les invités, l'apparition était masquée, mais de rouge sang également. Le grand seigneur des ténèbres se serait-il manifesté devant ses suppôts sous une forme humaine, et avec un masque sur le visage? Cela semblait peu probable. Pourtant, le myrdraal tremblait de tous ses membres dans l'ombre écrasante de son maître. Bors chercha une réponse susceptible de ne pas faire imploser son pauvre cerveau. Un des rejetés, peut-être. Cette hypothèse était à peine moins douloureuse. Pour qu'un rejeté soit ainsi en liberté, il fallait que l'avènement soit très proche. Terriblement proche même.
Les rejetés, les rejetés.
Les 13 plus grands manipulateurs du pouvoir de l'unique, en un âge où les détenteurs de ce don abondaient, avaient été emprisonnés dans le mont Shayalghul, où croupissait déjà le ténébreux. 13 fléaux vivants coupés du reste de l'humanité par le dragon en personne et ses 100 compagnons. À cause de la riposte du père des mensonges, la moitié masculine de la source authentique avait été souillée, plongeant dans la démence tous les Aes Sedai mâles. Maudits jusqu'à la fin des temps, les anciens héros avaient disloqué le monde, éventrant jusqu'aux montagnes dans leur colère aveugle. Avant de mourir, déjà pourris de l'intérieur, ils avaient ainsi mis un terme à l'âge des légendes. Une fin appropriée pour des Aes Sedai, selon Bors. Un épilogue parfait à leur ignoble existence, si seulement les femmes n'avaient pas été épargnées. Non sans peine, l'homme qui se nommait lui-même Bors repoussa sa panique tout au fond de sa tête, érigeant aussitôt une digue trop solide pour qu'elle puisse la briser. Impossible de faire mieux que ça. Mais c'était déjà pas mal, puisqu'aucun de ses compagnons ne s'était redressé, l'immense majorité des invités n'ayant même pas eu encore l'audace de relever un tant soit peu la tête.
« Debout !» répéta l'apparition. « Allons, debout et plus vite que ça !»
L'homme en rouge ponctua son ordre d'un geste impérieux des deux mains. Alors qu'il était déjà à genoux, Bors hésita à continuer. Les mains qui faisaient signe aux invités de se lever étaient atrocement brûlées, des crevasses laissant apercevoir une chair presque aussi écarlate que le masque et la tunique du maître.
Le ténébreux se montrerait-il ainsi? Ou même un rejeté?
les fentes du masque rouge se rivèrent sur Bors, qui cessa de s'interroger et se releva vivement. De la chaleur semblait se déverser des yeux de l'apparition, comme s'ils avaient été les portes d'un four. Aussi maladroit et aussi terrifié que Bors, les autres invités se levèrent les uns après les autres. Quand tous furent debout, la silhouette parla enfin.
« Je suis connu sous bien des noms, mais pour vous, j'entends m'appeler Baal Zamon. »
Bors serra les mâchoires pour s'empêcher de claquer des dents.
« Baal Zamon. »
En Trolloc, ça signifiait le cœur des ténèbres. Même le pire mécréant n'ignorait pas que c'était, pour les monstres, le nom que portait le grand seigneur des ténèbres. Celui dont le nom ne devait pas être prononcé, ni même murmuré. Pas Shaitan, non, mais un mot tout aussi interdit. Baal Zamon. Pour les hommes et les femmes réunis ici, et pour tous leurs semblables, souiller ces syllabes en les laissant jaillir d'une gorge humaine était un blasphème. Bors s'avisa de sa respiration sifflante sous le masque, puis il entendit qu'il n'était pas le seul à haleter ainsi. Regardant autour de lui, il constata que les serviteurs s'étaient volatilisés, tout comme les Trollocs, bien qu'il ne les eût pas vus sortir.
« L'endroit où vous êtes se niche dans les ombres du mont Shayolgul. »
Des gémissements ponctuèrent cette révélation. L'homme qui se nommait lui-même Bors n'aurait pas juré que sa voix était absente de ce cœur de lamentation. Les bras en croix, Baal Zamon continua sa harangue avec dans la voix quelque chose qui ressemblait fort à de l'ironie.
« N'ayez crainte, le jour de l'avènement de votre maître est tout proche. Le retour est imminent. Ne saisissez-vous pas que c'est pour ça que je me montre privilégié que vous êtes parmi vos légions de frères et de sœurs? Bientôt, la roue du temps sera brisée. Le grand serpent mourra, et grâce au pouvoir qu'il puisera dans cette fin, celle du temps lui-même, votre maître remodèlera le monde à son image, afin qu'il soit son fidèle reflet tout au long de cet âge et de tous ceux qui restent à venir. Mes serviteurs les plus fidèles et les plus loyaux, assis à mes pieds au cœur du ciel, parmi les étoiles, régneront alors à tout jamais sur le monde des hommes. C'est ce que j'ai promis, et il en sera ainsi pour l'éternité. Car vous vivrez et exercerez le pouvoir pour l'éternité. »
Des murmures excités coururent dans les rangs de fidèles, certains allant jusqu'à faire un pas vers la silhouette écarlate qui flottait toujours au-dessus du Mirbaal. Bors lui-même se sentit transporté d'enthousiasme par cette promesse, l'avenir radieux au nom duquel il avait vendu son âme une bonne centaine de fois.
« Le retour est proche, » continua Baal Zamon, « mais il y a encore beaucoup à faire. Oui, beaucoup. »
Sur la gauche du maître, l'air scintilla puis sembla se solidifier, dessinant la silhouette d'un jeune homme dont les traits se précisèrent peu à peu. Troublé, Bors lui-même ne parvint pas à déterminer s'il s'agissait d'une illusion ou d'un être vivant. Ce campagnard, à ses vêtements on ne pouvait avoir de doute, aux yeux marrons brillants d'espièglerie, affichait un demi-sourire, comme s'il était en train de se rappeler ou de préparer une bonne blague. Sa peau semblait bel et bien vivante, mais sa poitrine ne se soulevait pas et son regard demeurait anormalement fixe. Sur la droite de Baal Zamon, l'air scintilla également, donnant très vite naissance à une autre apparition qui flottait, comme la première, très légèrement au-dessous du niveau où se tenait le maître. Costaud comme un forgeron, il n'était qu'un autre jeune péquenaud, mais aux cheveux bouclés celui-ci. Bizarrement, une hache de guerre était glissée à sa ceinture, son tranchant en demi-lune brillant comme un soleil miniature. Mais il y avait plus étrange encore, constata Bors en tendant le cou pour mieux voir. Des yeux jaunes, un fichu péquenaud aux yeux jaunes. Au pied de Baal Zamon, une troisième silhouette apparut. Encore un paysan, très grand, ses yeux gris aux reflets presque bleus, selon l'incidence de la lumière, semblant lancer un défi sous sa tignasse d'un roux foncé. Là encore, une surprise attendait l'homme qui se nommait lui-même Bors. Mais au fond, au nom de quoi se serait-il attendu à des choses banales en ces lieux et en cette compagnie? Sur la hanche gauche, le fermier portait une épée à la longue poignée ornée d'un héron de bronze, tout comme le fourreau dans lequel elle reposait.
« Un bouseux avec une épée au héron? C'est impossible. Une chose pareille n'a aucun sens. »
Mais que dire d'un garçon aux yeux jaunes ? Du coin de l'œil, Bors nota que le myrdra lorgnait les trois apparitions. Et s'il tremblait toujours, ce n'était plus de terreur, mais de haine. Avant de continuer, Baal-Zamon laissa s'approfondir encore le silence de mort qui s'était abattu sur l'assistance.
« Un jeune homme arpente le monde, et c'est lui qui fut le dragon. Bientôt, il le sera de nouveau, mais ce n'est pas encore le cas. »
Des exclamations houleuses montèrent de l'assistance.
« Le dragon réincarné !»
s'écria le militaire du Chiennard, sa main volant vers la poignée de son épée imaginaire.
« Nous allons devoir le tuer !»«
Ce n'est pas exclu, » répondit Baal-Zamon. « Mais pas certain non plus, car il pourrait m'être utile. En fin de compte, c'est ce qu'il adviendra dans cet âge ou dans un autre. »
L'homme qui se nommait lui-même Bors tressaillit.
« Dans cet âge ou dans un autre ? Je croyais que le retour était imminent. Que m'importe ce qui se passera dans un nouvel âge, si je vieillis et finis par mourir dans celui-ci ? La trame s'infléchit déjà. » Un des multiples croisements où celui qui deviendra le dragon peut s'engager sur le chemin qui le conduira à me servir. Il faut que ça arrive. Je préférerais l'avoir vivant plutôt que mort, mais, mort ou vif, il devra passer dans mon camp. Regardez bien ces trois garçons, car tous sont des fils de la trame que j'entends tisser. Et il vous reviendra d'assurer qu'ils soient placés ainsi que je le désire. Gravez leurs traits dans votre mémoire, afin qu'ils n'en sortent plus jamais. »
Un silence écrasant suivit la dernière phrase de Baal-Zamon. Mal à l'aise, car il lui semblait que tous les sons venaient de disparaître à jamais, Bors sauta nerveusement d'un pied sur l'autre. Du coin de l'œil, il vit que les autres invités l'imitaient, tous sauf Lilianienne, constata-t-il surpris. Les mains posées à plat sur sa poitrine, comme si elle entendait voiler la délicate rondeur de ses seins, elle écarquillait les yeux, un mélange d'extase et de terreur, semblait-il. De temps en temps, elle hochait la tête, comme si quelqu'un s'adressait à elle. Par moments, ses lèvres remuaient, comme si elle répondait à une question, mais pas un son n'en sortait. Soudain, se dressant sur la pointe des pieds, elle arqua le dos, basculant en arrière. En toute logique, elle aurait dû tomber, mais Bors supposa que quelque chose la retenait. Après quelques secondes, ses talons reprirent contact avec le sol et elle hocha de nouveau la tête, tremblant comme une feuille. À l'instant même où Lilianienne cessa de trembler, une des deux Aes Sedai sursauta, puis se mit à son tour à hocher humblement la tête.
« Ainsi, chacun de nous reçoit directement ses ordres et n'entend pas ceux que reçoivent les autres. »
L'homme, qui se nommait lui-même Bors, en marmonna de désagrément. S'il avait connu les instructions d'un seul de ses compagnons, cela aurait sûrement pu lui être utile, mais le maître avait tout prévu. Bouillant d'impatience au point d'oublier de se ratatiner, Bors attendit que son tour vienne. Tous les invités reçurent leurs ordres. Aucun ne parla, mais leur réaction était autant d'indices faciles à interpréter, enfin, à condition d'avoir un minimum d'informations. L'homme à la peau noire qui appartenait au peuple de la mer, les Ataan Mire, ainsi qu'ils s'appelaient eux-mêmes, se raidit comme s'il n'acquiesçait qu'à contre-cœur. Le militaire du Chiennard trahit son trouble du début à la fin de son dialogue avec le maître. La seconde Aes Sedai tressaillit comme si elle venait d'encaisser un terrible choc, et la silhouette vêtue de gris au sexe indéfinissable secoua la tête, tomba à genoux et finit par acquiescer comme les autres. À l'instar de Lilianienne, des hommes et des femmes arquèrent le dos comme si la douleur les forçait à le faire.
« Bors !»
L'homme qui se nommait lui-même ainsi sursauta lorsqu'un masque rouge sang emplit son champ de vision. Curieusement, il voyait toujours la salle, la silhouette de Baal-Zamon et les trois garçons qui l'entouraient. En même temps, il aurait juré que le masque rouge lui volait le reste du monde. Mal assuré sur ses jambes, le crâne douloureux comme s'il allait imploser, Bors eut le sentiment que ses yeux menaçaient de jaillir de leurs orbites. Un instant, il crut voir des flammes derrière les fentes du masque.
« Bors, es-tu loyal ?»
L'ironie de Baal-Zamon glaça les sangs de son suppôt.
« Bien sûr, grand seigneur, et je ne peux rien te cacher. Je suis loyal, je le jure. »«
C'est vrai, tu ne peux rien me cacher. »
Une simple constatation, comme si ça coulait de source. La bouche sèche, Bors se força quand même à parler.
« Ordonne, grand seigneur, et je t'obéirai.
Pour commencer, tu dois retourner au Tarabone et continuer ton œuvre salvatrice. À vrai dire, je t'ordonne même de redoubler de zèle.
Surpris, Bors sonda le regard de son maître. Des flammes crépitant de nouveau derrière les fentes du masque, il inclina humblement la tête, un excellent prétexte pour se dérober au contact visuel de Baal-Zamon.
« Il en sera fait selon ta volonté, grand seigneur. »
« Ensuite, tu devras surveiller les jeunes gens et t'assurer que tes adeptes fassent de même. Mais sache que ces trois humains sont dangereux. »
L'homme qui se nommait lui-même Bors jeta un coup d'œil aux trois images en suspension autour de Baal-Zamon.
« Comment est-ce possible? Je les vois, et pourtant le masque rouge est comme une muraille devant mes yeux. »«
Dangereux, grand seigneur? Des paysans? L'un d'eux est-il ?»«
Une épée est dangereuse pour l'homme qui se trouve face à sa pointe, pas pour celui qui tient sa poignée. Sauf si c'est un crétin incompétent. Dans ce cas, l'arme est deux fois plus dangereuse pour lui que pour quiconque d'autre. » Contente-toi de savoir que je veux que tu les surveilles. Obéis, et tout ira bien.
Il en sera fait selon ta volonté, grand seigneur.
Enfin, il y a ceux qui ont accosté sur la pointe de Thoman, et aussi les Domani. Mais tu ne parleras de ça à personne, une fois de retour au Tarabone.
Alors qu'il écoutait, Bors prit conscience qu'il était bouche bée. Ses ordres n'avaient aucun sens.
Si je connaissais ceux des autres, au moins en partie, je pourrais reconstituer le puzzle.
Bors eut soudain le sentiment qu'un géant venait de refermer la main sur son crâne, lui écrasant les tempes. Le monde explosa en un kaléidoscope de couleurs, chaque éclair devenant une image qui passa devant son œil mental, souvent bien trop vite pour qu'il puisse la saisir dans toute sa complexité. Un impensable ciel constellé de nuages striés de rouge, de jaune et de noir défila devant lui à une vitesse folle, comme s'il était propulsé par le vent le plus puissant que le monde ait jamais connu. Une femme ou une jeune fille vêtue de blanc se découpa dans les ténèbres et se volatilisa aussi vite qu'elle était apparue. Un corbeau plongea un œil dans le sien, lisant en lui comme dans un livre ouvert, puis se désintégra en une fraction de seconde. Vêtu d'une armure et d'un casque qui le faisait ressembler à un insecte géant venimeux, un guerrier leva son épée et bondit sur le côté, hors de vue de Bors. Un cor doré fendit l'air, venant d'incroyablement loin, et une unique note aiguë en monta, déchirant l'âme de Bors. Au dernier moment, l'instrument explosa en une gerbe de lumière dorée qui traversa le corps de Bors, lui glaçant jusqu'à la moelle des os. Puis un loup bondit, s'arrachant à quelque incroyable puits de ténèbres, lui sautant à la gorge pour la déchiqueter. Incapable de crier, il se laissa emporter par les flots de la mort et du temps. Qui était-il? Impossible de le dire. Alors que des flammes pleuvaient du ciel, la lune et les étoiles les suivirent dans leur chute. Les fleuves saturés de sang débordèrent, les morts se relevèrent, la terre s'ouvrit et des geysers de lave en jaillirent. L'homme qui se nommait lui-même Bors reprit conscience de son existence. Accroupi dans la grande salle, au milieu de ses compagnons, il était désormais l'objet de l'attention générale. Qu'il regarde en haut, en bas, à droite ou à gauche, le visage voilé de rouge de Baal-Zamon lui apparaissait, occultant toujours le monde. Les images qui avaient défilé dans son esprit s'effaçaient déjà, certaines étant sans doute gommées à tout jamais de sa mémoire.
« Grand seigneur, que signifie ?»
commença Bors en se relevant à demi, ignorant toujours si c'était la bonne chose à faire.
« Certains ordres sont trop importants pour être connus, y compris par ceux qui doivent les exécuter. »
L'homme qui se nommait lui-même Bors se plia en deux, la plus profonde révérence qu'il eût jamais faite.
« Qu'il en aille selon ta volonté, grand seigneur. »
croassa-t-il. Une fois debout, il se retrouva seul dans l'extraordinaire silence. Désormais, le haut seigneur de Théar menait une conversation qu'il était seul à entendre et approuvait du chef des paroles qui ne concernaient que lui. Bors posa une main tremblante sur son front, comme s'il tentait de retenir les images qui venaient de défiler sous son crâne. Mais tenait-il tant que ça à se souvenir? Se souvenir de quoi, pour commencer?
Je sais qu'il y a eu quelque chose, mais quoi? Allons, c'était là, et bien là.
Bors se frotta les mains, eut une grimace de dégoût en sentant qu'elles étaient poisseuses de sueur sous ses gants, puis il tourna la tête vers les images si criantes de vérité des trois jeunes gens. Le costaud aux cheveux bouclés, l'échalas armé d'une épée et l'éternel sale gosse espiègle. D'instinct, Bors leur avait déjà distribué des surnoms, le forgeron, l'escrimeur et le farceur.
Quelle est leur place dans le puzzle?
À l'évidence, ils étaient importants, sinon Balsamon n'aurait pas fait d'eux le point focal de cette réunion. Même si Bors se fiait à ses ordres, ils étaient susceptibles de mourir à n'importe quel moment, et d'autres invités, à coup sûr, avaient dû recevoir des instructions tout aussi radicales les concernant.
Quelle est leur importance?
Les yeux gris-bleus évoquaient la noblesse d'Andorre, mais dans de tels vêtements? Et on trouvait des habitants des terres frontalières aux yeux clairs, ainsi que quelques ressortissants de Théar. Il y en avait aussi au Géaldan, et... Non, cet indice-là ne menait à rien.
Mais les yeux jaunes, qui sont ces garçons? Et que sont-ils?
Sentant qu'on lui tapotait le bras, Bors leva les yeux et vit qu'un jeune serviteur se tenait à ses côtés. Les autres étaient de retour aussi, et même avec des renforts, puisqu'il y avait à présent un domestique par hôte. En revanche, Balsamon s'était volatilisé. Le Myrdral aussi, et la porte, dans le mur du fond, avait également disparu. Il ne restait plus que les trois silhouettes, et Bors aurait juré qu'elle le dévisageait.
« Si vous voulez bien, Monseigneur Bors, je vous conduirai à votre chambre. »
Évitant de croiser le regard mort du valet, Bors jeta un dernier coup d'œil aux trois péquenauds, puis il emboîta le pas à son guide, se demandant comment il avait su par quel nom l'appeler. Une fois franchi la porte ornée d'étranges sculptures, et après avoir fait une dizaine de pas en compagnie du serviteur, Bors s'avisa qu'ils étaient seuls dans le couloir. Fronçant les sourcils sous son masque, il voulut parler, mais le domestique le devança.
« Les autres invités sont également guidés jusqu'à leur chambre, Seigneur. Nous devrions d'ailleurs accélérer le pas, parce que le temps presse, et l'impatience de notre maître ne vous est sans doute pas inconnue. »
Bors serra les dents, agacé par cette façon de noyer le poisson et d'impliquer, le « notre maître », que le larbin et lui étaient sur un pied d'égalité. Il s'abstint cependant de tout commentaire. Seuls les imbéciles s'en prenaient au domestique, et si on considérait le regard mort de celui-ci, ça risquerait d'être parfaitement inutile.
Mais comment a-t-il deviné la question que j'allais poser?
Le serviteur eut un petit sourire. L'homme, qui se nommait lui-même Bors, ne se sentit pas à l'aise avant d'avoir réintégré la pièce où il avait laissé ses affaires. Même là, il continua à éprouver une gêne indéfinissable. Constater que les seaux à poser sur ses sacoches de sel étaient intacts ne parvint même pas à le réconforter. Le serviteur s'arrêta sur le seuil de la chambre.
« Vous pouvez remettre vos vêtements personnels si ça vous chante. Personne ne vous verra partir d'ici, ni atteindre votre destination. Cependant, il serait sans doute préférable d'être vêtu de la façon appropriée à ce moment-là. Quelqu'un viendra bientôt vous montrer le chemin. »
Comme si une main invisible la poussait, la porte se referma toute seule. Bors ne put s'empêcher de frissonner de la tête aux pieds. Brisant les seaux et ouvrant les boucles d'une sacoche, il en sortit sa cape habituelle. Tout au fond de sa tête, une voix demandait si tout le pouvoir du monde, même avec l'immortalité en prime, méritait qu'il revive un jour une expérience comme celle-là. Il réduisit au silence la voix impertinente.
« Allons, pour un tel pouvoir, je serais capable de chanter les louanges du ténébreux sous le dôme de la vérité. »
Se remémorant les ordres de Balsamon, Bors passa délicatement une main sur le soleil qui ornait le côté gauche de sa cape blanche, un astre étincelant superposé à un bâton de berger rouge sang. L'emblème de sa charge dans le monde des hommes. Une charge écrasante, car il y avait encore du pain sur la planche pour lui au Tarabone et dans la plaine d'Almotte.